Alexandre Rosset.
Bonsoir, le Jura devra baisser le prix des plaques de voiture. Les citoyens ont largement accepté aujourd'hui l'initiative cantonale qui leur était soumise. Le gouvernement s'attendait à un tel résultat au vu notamment du contexte actuel. Trois oui sont sortis des urnes au niveau fédéral. Les Suisses ont accepté ce dimanche le consentement présumé au don d'organes, l'Alex Netflix et l'augmentation de la contribution à Frontex. Les Jurassiens ont soutenu les trois objets à plus de 60%. Le Conseil national PDC, Jean-Paul Kschwind, est notre invité pour commenter ses résultats. Deux objets communaux étaient aussi au programme dans le Jura. Delémont a dit oui à l'achat des terrains de la friche industrielle du sud de la gare. En Ajoie, les citoyens de Bernevezin et de Bonfol ont accepté de fusionner. La soirée pourrait se montrer orageuse par endroits. Demain, c'est une nouvelle journée estivale qui nous attend, même si les nuages s'annoncent parfois nombreux. Il fera jusqu'à 25 degrés au maximum. Les plaques devront coûter moins cher dans le Jura. La population a plébiscité aujourd'hui l'initiative populaire cantonale intitulée « Les plaques moins chères » à 82,7%. Le texte demande de modifier le calcul de l'impôt sur les véhicules afin de s'approcher significativement de la moyenne suisse par catégorie de véhicules. Le comité d'initiative a fêté une nette victoire qui a même étonné son président Raoul Yeki.
Depuis tout petit, on me dit alors ça roule Raoul. Eh bien, depuis aujourd'hui, on sait qu'on va rouler moins cher.
Très nette victoire aujourd'hui pour vous. C'était un long combat hein, depuis les premières plaques Jura trop cher qui SML canton du Jura. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment ?
Depuis 2018, où j'ai déposé cette motion jusqu'ici, il y a eu moult tourments ou virages. C'était long. Aujourd'hui, jamais j'aurais imaginé un score comme ça. La quasi toutes les communes jurassiennes votent oui à plus de 80%. Ça renseigne quand même sur la volonté du peuple jurassien et il devrait en découler des décisions d'une part rapides. On a 2 ans pour faire une loi, mais quand vous recevez une facture à 30 jours, rien ne vous empêche de la régler le lendemain. Aujourd'hui, le gouvernement est renseigné sur la volonté du peuple jurassien et il serait de bon ton et cohérent de se dépêcher dans ce dossier.
Et ce résultat ne constitue pas une surprise pour la ministre des Finances, Rosalie Borésis.
C'est un résultat qui était attendu au sein du gouvernement jurassien. Nous prenons acte aujourd'hui de ce résultat. Je crois que durant toute la campagne, nous avons pu constater que tout le monde était d'accord pour dire que la méthode actuelle pour calculer le tarif des plaques n'était plus adaptée, que les éléments environnementaux devaient venir aussi compléter cette méthode de calcul, j'en suis convaincue. Et puis également l'argument du prix qui arrive dans un contexte d'inflation et une sensibilité accrue à ces thématiques.
Dans les arguments contre l'initiative, il y avait le fait que ça allait plomber les finances de l'État. Est-ce que vous avez l'impression que les Jurassiens ne se sentent pas assez concernés par les finances de l'État au vu de ce résultat ?
Non, je pense que les Jurassiens sont, compte tenu de la situation, de la structure aussi géographique de notre canton, sont encore extrêmement dépendants d'un véhicule motorisé. Le montant consacré aux véhicules dans les ménages est un poids conséquent. On parle des plaques, mais évidemment de l'essence, que depuis le début de l'année, ces montants ne cessent de croître. Et puis que dans ce contexte-là, effectivement, ils ont davantage pensé à savoir comment est-ce qu'ils pourraient boucler leur fin de mois. Au niveau du canton du Jura, évidemment que dans un contexte de finances compliqué, ça sera un élément en plus à prendre en considération.
Un sujet de Léandre Béret. Le gouvernement et les services de l'administration cantonale vont développer un projet pour introduire un nouveau modèle d'imposition des véhicules. Le texte devrait être présenté au Parlement jurassien l'année prochaine. Au niveau fédéral, les Suisses ont donc dit 3 fois oui ce dimanche dans les urnes. Pour évoquer les résultats de ces différentes votations, nous recevons le conseiller national PDC Jean-Paul Kschwind. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer avec l'objet fédéral dont le sort était le plus incertain. Le peuple suisse a accepté aujourd'hui l'Alex Netflix à 58,4%. Dans le Jura, le oui a atteint 64,7%. Seules les communes de Courchavon, Eddorswiller et Mettenberg ont refusé le texte. Les plateformes de streaming comme Netflix devront donc investir 4% de leur chiffre d'affaires dans des productions suisses. Malgré la défaite, les adversaires à cette nouvelle loi sur le cinéma sont plutôt satisfaits du résultat. Ils entendent désormais rester attentif à la mise en œuvre du texte, la coprésidente des Jeunes Verts Libéraux Suisses, Virginie Cavalli.
Je crois que pour une coalition de jeunes partis, ce résultat est assez bon. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on a créé le débat sur des questions qui sont démocratiquement, en général, peu débattues, sur le financement du cinéma suisse, sur le financement de la culture en général. Et je pense que c'est important que les citoyens aient entendu les arguments des deux camps. Alors je pense qu'on va être attentifs surtout parce que cette loi, elle va créer un précédent pour d'autres plateformes comme Spotify, par exemple. Et puis cette réflexion en silo est vraiment dommage parce que je pense que dans le cadre de la taxation des GAFAM, il faut voir la situation de façon plus globale. Et si on taxe, le faire de façon raisonnée et puis surtout utiliser cet argent pas seulement que pour un domaine particulier, mais surtout pour l'intérêt de la population.
Alors Jean-Paul Kschwind, avec cette nouvelle obligation pour les plateformes de streaming, est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir par exemple le prix de notre abonnement Netflix prendre l'ascenseur ?
Non, je ne pense pas. Déjà, donc ce résultat, c'est vrai que ça pouvait paraître comme une surprise. Encore dernièrement, j'étais à Berne où on était persuadé que cette loi n'allait pas passer. Mais personnellement, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où le monde, les citoyens sont favorables donc, à la culture et au cinéma. Et puis, il est tout à fait normal donc, que ces producteurs internationaux donc, donnent une contribution de 4%, à mon sens, qui est minime par rapport à tous les gains que ces entreprises peuvent exécuter. Et puis, je pense que c'est tout à fait... il n'y a pas à s'inquiéter autrement quant aux répercussions qu'il y aura éventuelles sur les prix des abonnements. Moi, je ne pense pas. Donc, un montant de 4%, c'est tout à fait encore acceptable et acceptable, comment vais-je dire, vis-à-vis de ce qui, les montants qui sont payés à l'étranger. Au Portugal, on parle de 25%. Je pense que c'est tout à fait normal. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma et la culture, dans la mesure où ce n'est pas toujours à la Confédération d'amener des dizaines de millions pour soutenir cette branche.
Alors, les Suisses ont également donné leur feu vert aujourd'hui à une hausse de la contribution helvétique à Frontex. Le soutien à l'agence qui assure la sécurité des frontières extérieures de l'Europe a atteint 71,4%. Le score est quasiment identique dans le Jura avec 71,7% de oui. Toutes les communes ont accepté le texte sauf Eddorswiller et les Enfers. Le référendum contre Frontex avait été lancé par des organisations de défense des droits des migrants avec le soutien de la gauche. Le combat n'a pas été totalement inutile selon Gratielle de Coulon, membre de l'association Droit de rester à Lausanne.
Ça a quand même permis de discuter, de remettre quand même en cause un petit peu la position de la Suisse. Et il y a eu un débat, et moi j'espère que ce débat va continuer. Le point le plus important, ce n'est pas vraiment la votation qu'il y a eu en Suisse, mais ce qui se passe avec Frontex. Et ça, il n'y a pas que la Suisse qui s'en est occupée. Le Parlement européen et l'Europe entière commencent à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et essayer de changer un peu. Et ça a permis à beaucoup de monde de voir que la Suisse mène une politique raciste, qu'elle ouvre les portes à une population et la ferme toujours aux autres, et que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait discuter.
Jean-Paul Kschwind, comment vous analysez ce résultat ? Ça montre une volonté des Suisses de garder des bons rapports avec l'Europe, finalement ?
Ouais, je pense que ce résultat, donc, il est très net. Quand bien même, donc, on a eu une campagne dernièrement qui n'était pas tout à fait correcte, à mon sens, où il y avait des exagérations, notamment en ce qui concerne la violation des droits de l'homme par le Conseil fédéral. Mais moi, je pense que ce résultat, il va dans un sens, il faut le prendre dans le contexte que nous vivons maintenant, avec la guerre qui est en Europe. Donc, et puis je pense que ça a une certaine influence. Frontex, Schengen Dublin, c'est un projet qui garantit la sécurité en Europe. La sécurité, c'est la lutte contre la criminalité, le terrorisme, et ce n'est pas uniquement des questions liées à l'asile. Donc je pense que la population n'est pas tombée dans le panneau et puis qu'elle a voulu miser sur la carte de la sécurité plutôt que de prendre un risque de se voir... exclu de Schengen Dublin avec toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir.
Justement, pour vous, c'est cet aspect-là, l'exclusion de l'espace Schengen qui a peut-être fait pencher la balance.
Moi, je pense, parce qu'être exclu dans le contexte actuel qu'on connaît avec les relations difficiles qu'on a déjà avec l'Europe, avec l'abandon de l'accord cadre, je pense qu'on ne pourrait pas prendre le risque encore de se voir exclu de Schengen. Puis, je vous dis, les conséquences auraient été assez dramatiques au niveau touristique, notamment dans la mesure où toute personne qui vient en Europe avec un visa, peut voyager dans tous les pays, notamment ici chez nous en Suisse, avec des conséquences très positives pour le tourisme.
Qu'en est-il maintenant des violations des droits humains de la part de Frontex? On en a beaucoup entendu parler, vous l'avez dit. La Suisse pourra y rester attentive d'une façon ou d'une autre.
Oui, c'était un des arguments de la gauche. Ceci dit, en passant, je pense que la gauche, c'était une défaite pour la gauche aujourd'hui, c'est très, très clair. Mais je pense que cette question liée aux droits humains, je ne veux pas dire personnellement qu'il n'y a peut-être pas des fautes qui sont commises, des exagérations qui sont commises, mais ce n'est pas en restant en dehors d'un système qu'on peut essayer de l'influencer, quand bien même la Suisse, elle n'est pas très importante, c'est 40 000 agents sur 10 000, mais elle est là, elle peut amener son idée, elle peut amener son expérience en matière d'asile, et puis je pense que ça, c'est très important. C'est pas en restant en dehors et puis de hurler avec les loups qu'on peut faire avancer les choses.
Alors, je vous propose à présent de nous intéresser au troisième et dernier objet qui était soumis aux Suisses ce dimanche, c'est le consentement présumé au don d'organes. Le texte a été approuvé par 60,2% des votants et 75,8% des jurassiens. Seule la commune d'Edorswiller a dit non. Désormais, toute personne sera considérée comme donneuse à moins de s'être annoncée dans un registre. Trois cantons ont refusé l'objet, Schaffhouse, Schwyz et les deux Appenzell. Les opposants sont satisfaits d'avoir pu ouvrir le débat autour de cette question, comme nous l'explique le vice-président du parti évangélique, François Bachmann.
C'est un aboutissement de ce processus de référendum. On est content qu'on en ait tous parlé. C'est 60%, c'est pas 80% comme ça a été projeté. Là, avec la loi, c'est le Conseil fédéral qui a des devoirs, qui doit informer, qui doit s'assurer, puisqu'il présume le consentement, que les gens sont informés, que c'est un consentement informé. C'est une campagne d'information qui doit être perpétuelle, à quelque part. Et le fait qu'on ait eu ce référendum, je pense que ça a aussi mis en évidence ce devoir du pouvoir exécutif de mettre en œuvre. Et j'espère que le Parlement lui donnera les moyens de le faire un peu mieux que ce que ça a été fait jusqu'à présent.
Jean-Paul Kschwin, ce changement de paradigme, comme on dit, il est important, voire essentiel aujourd'hui pour sauver des vies.
Moi, je pense. Personnellement, je dois dire qu'au départ, je n'étais pas très convaincu par cette loi, parce qu'il y a une question morale, une question éthique. Dans la mesure où le corps humain, c'est un don, c'est un don divin, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, je peux comprendre celles et ceux qui n'ont pas voté pour cette loi, mais dans la discussion, dans le débat, je suis quand même arrivé à la conclusion qu'il fallait accepter cette loi pour la bonne et simple raison. Si vous regardez ce qu'ils appellent les atrocités qu'on vit en Ukraine, et quand on voit c'est quoi la vie, quand on voit ce qui s'est passé au niveau de la criminalité, des actes de criminalité au niveau de la guerre, la vie, ça ne tient pas grand-chose. Alors, je pars du principe que si moi, il m'arrive quelque chose, je dois pouvoir aider une personne qui est dans la maladie, qui attend justement un don d'organe. Alors, ça, c'était un élément qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir.
Mmh. Il y a certains qui craignent quand même des dérives, qui estiment que tout le monde ne sera pas forcément informé, parce qu'il faudra être informé si on ne veut pas justement donner ses organes. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Oui, d'accord. Je pense que maintenant, il y a un travail qui va se faire au niveau du Conseil fédéral. C'est au Conseil fédéral maintenant de prendre leur lait, arriver avec des ordonnances, et puis d'informer la population, informer les citoyennes et les citoyens pour dire exactement comment il faudra opérer par la suite, quoi. Mais moi, je suis confiant à l'avenir et puis je pense que cette décision qu'on a prise aujourd'hui, c'était une bonne décision.
Jean-Paul Kschwin, conseiller national PDC, merci d'avoir été avec nous
pour commenter
ces trois oui qui sont sortis des urnes aujourd'hui en Suisse. Et belle soirée.
Merci beaucoup.
Delémont va pouvoir acquérir la pièce manquante de son puzzle au sud de la gare. La population a accepté aujourd'hui à 68,2% un crédit de 12,5 millions de francs pour acheter les parcelles de l'ancienne usine Safed. Le site doit devenir un pôle de développement stratégique. Le conseiller communal en charge de l'urbanisme, Emmanuel Koller, se réjouit du verdict des urnes. Il s'agit en quelque sorte du coup d'envoi officiel d'un projet de longue haleine.
Cet achat de cette parcelle fait partie d'un grand puzzle, hein, c'est qu'une pièce du puzzle. Ce puzzle, c'est Gare Sud, qui est une surface d'à peu près 5000 m² derrière les voies de chemin de fer, qui a une ambition d'avoir un développement cantonal, aussi pour l'agglomération, avec éventuellement un hôpital cantonal, peut-être des infrastructures sportives. Et donc, pour développer cette nouvelle parcelle, la prochaine étape, en tout cas pour Safed, ça sera de développer un plan spécial.
Dans quel délai, à partir de maintenant?
Alors, nous allons, prochain délai, signé l'achat de cette parcelle et ensuite de quoi nous allons demander un crédit pour étudier le plan spécial et nous allons lancer la démarche participative dans le courant de cet automne.
Des propos recueillis par Léonia Drover. À noter encore que le taux de participation à cette votation communale s'est élevé à 39,2%. En Ajoie, Bonfol et Bornevezin se sont dit oui ce dimanche. Les deux communes ont accepté de fusionner. 68,1% des votants de Bonfol ont accepté le mariage pour créer la commune de Basse-Vendeline. À Bornevezin, un oui de 87,5% est sorti des urnes. Mais comment expliquer que l'enthousiasme pour la fusion soit moins fort à Bonfol de près de 20 points? Écoutez la réponse du maire Fernand Gasser.
Alors Bonfol n'a pas les mêmes besoins que Bornevezin. Bornevezin, on sait qu'ils étaient plus ou moins en demande de fusion. Nous, on n'a pas l'obligation, on n'a pas vraiment la nécessité de fusionner. On a encore les ressources pour se débrouiller tout seul.
Ça ne vous inspire pas de crainte pour la suite, le rapprochement effectif, ce résultat un peu moins bon que celui de vos voisins?
Non, je pense pas. Les gens se connaissent. Voilà. Après, ce sera aux nouvelles autorités de la nouvelle entité de faire le lien entre les deux communes. La grande majorité, je pense qu'on peut travailler ensemble. On travaille déjà passablement ensemble dans d'autres services. Ça ne peut être qu'une continuité.
Et cette fusion est peut-être la première pierre d'un mariage plus large. C'est en tout cas le souhait du maire de Bornevezin, Jean-Christophe Fourrère.
Je pense que c'est une belle opportunité pour ceux qui viendront de pouvoir continuer ces fusions avec d'autres communes. Moi, je verrais bien partir sur l'Unier d'Anfreux, ce qui ferait finir la boucle. Dans les calculs au nombre d'habitants, on viendrait à 5e commune du canton du Jura. Si on prend Vendelin-Cour en plus ou Queuve, on monterait encore dans le classement. Donc ça vient vraiment intéressant et c'est quelque chose pour moi qui est assez logique. Pour autant qu'on puisse aussi avoir un service postal entre Bonfol et Bornevezin pour pouvoir alimenter toutes ces communes.
Un dossier réalisé par Marceline Michon. Les maires de Bonfol et de Bornevezin souhaitent rester en poste jusqu'à la réalisation effective de la commune fusionnée au 1er janvier 2024. Jean-Christophe Fourrère, maire de Bornevezin, ne se présentera pas à la tête de la nouvelle commune Basse-Vendeline. Fernand Gasser, actuel maire de Bonfol, ne sait pas encore de son côté s'il sera candidat. Dans le reste de l'actualité, la patinoire a eu droit à son bain de foule à Porrentruy. La Raiffeisen Arena a été inaugurée ce week-end. Entre 8000 et 10000 personnes ont profité de l'occasion pour visiter la nouvelle infrastructure, selon une estimation du président du syndicat intercommunal du district de Porrentruy. Stéphane Babé tire un bilan extrêmement positif de ces portes ouvertes. La Finlande va écrire une nouvelle page de son histoire. Le pays a officiellement pris la décision de demander son adhésion à l'OTAN. Le président et la première ministre de l'État nordique l'ont annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'une conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. Le projet d'adhésion sera soumis demain au Parlement. Et puis la Russie devrait par ailleurs suivre la Finlande dans les prochaines heures.
Sport.
La Coupe de Suisse de football est aux couleurs noire et blanche, Théoria.
A décroché le titre cet après-midi au stade du Vandorf à Berne. L'équipe tessinoise a battu Saint-Gall 4-1. Les Brodeurs échouent pour la deuxième année de suite en finale. Quant à Lugano, il décroche le quatrième trophée de son histoire, Leonhard Reichen.
Le football tessinois attendait cela depuis 29 ans et pour y parvenir, les Luganais ont réalisé le match parfait. Il n'a fallu attendre qu'un peu moins de 4 minutes pour les voir débloquer le compteur sur coup de pied arrêté par Sellar. Malgré une égalisation saint-galloise à la 21e minute de jeu, le FC Lugano a réalisé le match parfait en gardant son sang-froid alors que les Brodeurs ont souvent manqué de tranchant. Les Bianconeri reprenaient l'avantage juste avant la pause par Custodio suite à une errance défensive saint-galloise. Les Tessinois ont foncé encore le clou par Botani et l'ancien Xamaxien Haile Selassie en deuxième mi-temps. Après une finale perdue en 2016, 2022 a donc été la bonne pour le FC Lugano.
Dans la région, le FC Courtetel sort de la zone rouge en deuxième ligue interrégionale. Les Vadais ont dominé le quatrième de la hiérarchie, l'Istal, 3-2 cet après-midi à domicile. Ils remontent à la dixième place avec 2 points d'avance sur le premier relégable, Spiess. Ce succès bénéficie aussi à Ajoie Monterrey qui garde sa deuxième place synonyme de promotion en fin de saison. Des rencontres se sont jouées aujourd'hui également en 3e ligue. Dans le groupe 5, Courandelin a imposé sa loi à Glovelier B 9-0. Il pointe à la 3e place du classement alors que Glovelier reste dernier. Dans le groupe 6, ce matin, Vic a dominé Valterbi 3-1 et monte sur le podium. Et le duel autour de la barre est revenu à Develier contre l'Unier d'Anfreux. Victoire des Vadais 2-0 qui prennent 4 points d'avance sur les Ajoulots. les athlètes jurassiennes s'illustrent au championnat de Suisse de pôle et aérial sport. Roman Moscaritolo a décroché le titre dans la catégorie senior plus de 18 ans. Léonie Deslover est devenue vice-championne en senior plus de 30 ans hier à Bienne. Les deux athlètes ont également conservé leur titre en duo aujourd'hui. Elles obtiennent ainsi leur qualification pour les mondiaux en octobre prochain à Lausanne, tout comme en solo dans leurs catégories respectives. Opération confirmation pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace au championnat du monde en Finlande. Après sa victoire contre l'Italie hier dans le groupe A, la sélection de Patrick Fischer va se frotter au Danemark ce soir à 19h20 à Helsinki. Cet adversaire avait battu les Helvètes aux derniers Jeux Olympiques d'hiver et ils viennent d'étrier le Kazakhstan 9-1 aux mondiaux. La tâche s'annonce donc ardue, mais l'attaquant suisse Tristan Chervet y croit.
Je pense que c'est une très bonne équipe. Ils ont fait fort à leur premier match. Donc voilà, maintenant c'est à nous de bien récupérer et on va être prêts pour un gros match clé contre le Danemark. Je pense que ça sera la clé de vraiment faire notre jeu agressif, mais en même temps d'avoir cette patience et surtout d'avoir la balance parce que voilà, je pense que plus le match ira, ils attendront leur chance pour les contres et ça sera là qu'il faudra être vigilant. Donc je suis persuadé que le coaching staff va nous préparer de bonne manière.
L'équipe de Suisse doit s'attendre à un gros défi physique face au Danemark. Il s'agira aussi de trouver la clé pour faire sauter le verrou tout en évitant de trop se découvrir, le défenseur Michael Fora.
C'est un très bon adversaire, il joue très bien défensivement, très bien dans la zone neutrale. On a vu à l'Olympiade très compact comme équipe. Et il faut se concentrer sur ce que sont notre point de force, jouer très vite. Le fait qu'il joue bien défensivement, il lui donne la chance d'aller tout de suite dans l'attaque. Et puis bah, sûrement ils ont des très bons joueurs offensivement aussi.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Finlande, Raphaël Chalvera. Toujours dans le groupe A, le Canada a dominé l'Italie 6-1 aujourd'hui. La France s'est imposée contre le Kazakhstan 2-1. Dans le groupe B, la Norvège a battu la Grande-Bretagne 4-3 après les tirs au but. Les États-Unis ont pris le meilleur sur l'Autriche 3-2 après prolongation. Et la République tchèque affronte la Suède à 19h20. Iga Świątek est inarrêtable. La joueuse de tennis polonaise a remporté son 5e titre consécutif lors du Masters 1000 de Rome. Elle a battu en finale la Tunisienne Ons Jabeur en 2-7, 6-2, 6-2 cet après-midi. Il s'agit de son 28e succès de suite. Chez les hommes, Novak Djokovic a remporté ce Masters 1000 de Rome. Le Serbe a dominé le Grec Stefanos Tsitsipas en 2-7, 6-2, 7-6 cet après-midi. Le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros commence dans une semaine. Et toujours en tennis, Johan Nicklaes figure pour la première fois de sa carrière dans le tableau principal d'un tournoi ATP. Le jeune voix de 25 ans, 294e à l'ATP, a passé le dernier tour des qualifications de l'Open de Genève. Et Jay Hindley remporte la première grosse étape de montagne sur le Giro. Le cycliste australien a devancé de peu le français Romain Bardet et l'équatorien Richard Carapaz dans un sprint qui a réuni 6 coureurs sur cette 9e étape au sommet du Blockhaus dans les Abruzzes. L'Espagnol Juan Pedro Lopez a conservé de justesse son maillot rose de leader de ce Tour d'Italie. C'est la fin de ce Point Sport, je vous souhaite une belle soirée.